Grisali.
Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, merci d'être avec nous, très heureux de vous retrouver dans un instant comme tous les matins. RFI vous donnera la parole, ce sont d'abord vos questions à la rédaction, c'est votre rendez-vous privilégié avec les journalistes d'RFI, nos experts ici à Paris au sein de la rédaction, nos envoyés spéciaux, nos correspondants à travers le monde. Vous souhaitez mieux comprendre l'actualité, c'est simple, vous nous appelez 33 9 693 693 70, 09 693 693 70 si vous êtes en France. Et vous nous envoyez également vos questions sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de l'émission. Dans 30 minutes, j'en perds ma voix, nous lancerons un débat. Nous parlerons tout à l'heure ensemble du processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Où en est le pays 5 ans après l'arrestation de l'ancien président Laurent Gbagbo? C'était le 11 avril 2011. Une arrestation survenue après plusieurs mois de crise post-électorale durant lesquelles, je vous le rappelle, plus de 3000 personnes ont été tuées. La réconciliation nationale n'est pas encore achevée, c'est ce que disent de nombreuses ONG, c'est ce que dit également l'opposition. Alors quels obstacles restent-ils à surmonter? Vous êtes en Côte d'Ivoire, on a envie de vous entendre, vos témoignages évidemment nous intéressent, 33 9 693 693 70. Mais d'abord donc vos questions, une question d'abord pour commencer sur le Premier ministre britannique. Vous savez que David Cameron est éclaboussé par les Panama Papers. Bonjour Tom Basile.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous êtes à Conakry, en Guinée, nous vous écoutons.
Voilà. David Cameron a avoué avoir détenu des comptes des sociétés offshore dans le passé, mais que lui-même aurait affirmé que son activité était légale. Du coup, est-ce que c'est le début d'une crise politique au Royaume-Uni, comme en Islande? David Cameron va-t-il devoir démissionner?
Ah, va-t-il démissionner? C'est la question qu'on se pose. Il y a peu de suspense tout de même. Bonjour Anastasia Becchio.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors effectivement, le Premier ministre islandais a été contraint de démissionner. Il est accusé d'avoir créé une société offshore pour y cacher des millions d'euros. David Cameron est lui aussi éclaboussé, mais dans une moindre mesure. Ce qui est sûr, c'est que cette affaire affaiblit sérieusement son autorité.
Oui, c'est vrai qu'il est dans une situation délicate. Il y a eu des manifestations à Londres ce week-end où on a pu entendre des appels à sa démission, mais si on compare avec ce qui se passe en Islande, l'étendue de la crise politique est quand même bien moindre. Entre 5 et 8 000 personnes ont pris part aux diverses manifestations à Reykjavik qui ont fini par obtenir la démission du Premier ministre islandais. 5 à 8 000 personnes dans un pays de seulement 320 000 habitants. C'est une très grosse mobilisation. En comparaison, les quelques centaines de manifestants de Londres font vraiment pâle figure. Et ça n'est pas en tout cas cette mobilisation qui fera vaciller le gouvernement britannique.
Oui, enfin, David Cameron est tout de même critiqué, notamment par l'opposition.
Oui, mais ces critiques sont quand même finalement assez limitées. Il faut dire que le contexte est particulier. On est en pleine campagne du référendum du Brexit sur le maintien ou non du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. Ce sera le 23 juin prochain. Cameron milite pour que son pays reste au sein de l'UE et c'est aussi le cas du chef du Parti travailliste, Jeremy Corbyn, qui n'a donc aucun intérêt pour l'instant à faire tomber Cameron, car cela aurait inévitablement des répercussions sur ce référendum. Et d'ailleurs, Corbyn se garde bien d'appeler à la démission de Cameron.
Alors, Tamba Sidi, qui est à Conakry, nous demandait si David Cameron sera forcément obligé à un moment donné de démissionner.
Alors, c'est peu probable dans l'immédiat, vu le contexte dont on vient de parler. Ce qui est sûr, c'est que son autorité morale est diminuée, d'autant qu'il avait souvent, dans le passé, attaqué les paradis fiscaux. Au Royaume-Uni, tout le monde sait que Cameron vient d'un milieu aisé, tout comme sa femme, qu'il a donc une fortune personnelle. Et ça n'est pas ce qui choque le plus. Ce qui dérange, c'est la faute morale, l'hypocrisie. Et son mea culpa ne suffit pas à éteindre l'incendie.
Il a tardé quand même à reconnaître l'existence effectivement de ce fonds. Il s'est un peu emmêlé les pinceaux en matière de communication la semaine dernière.
Effectivement, ça, c'est ça qui dérange le plus en fait la société britannique. Et récemment, une éditorialiste d'un journal libéral faisait valoir qu'il était très choquant choquant pour le public britannique qu'un Premier ministre et son père aient échappé au financement du service public britannique pendant des années, alors qu'aujourd'hui celui-ci est victime de coupes budgétaires très importantes et que les professionnels de la santé se mettent à manifester. L'affaire, bien sûr, donc le fragilise, et en cas de défaite au référendum sur le Brexit, là, il devrait en tirer les conséquences, et là, du coup, peut-être alors démissionner.
Donc, on verra ça fin juin. Tamba Sidi, vous avez une autre question?
Oui, exactement, Juan. Pourquoi le Premier ministre David Cameron dit-il que son activité n'avait rien d'illégal?
Ah, ce que vous ne compreniez pas, et vous l'avez dit effectivement tout à l'heure au Standard, c'est comment peut-on avoir un compte offshore légal, Anastasia Becchio?
Alors, en fait, les sociétés offshore ne sont pas illégales en elles-mêmes. Le problème, c'est l'opacité des activités qu'elles peuvent dissimuler. Ces entreprises permettent souvent de créer et de gérer des comptes en banque en toute discrétion pour soustraire parfois des fonds à des taxes et des impôts et de dissimuler une partie de ses biens ou de son patrimoine. Cameron a expliqué qu'il avait revendu ses parts en 2010 avant de devenir Premier ministre pour qu'il n'y ait pas, dit-il, de conflit d'intérêts. Il estime qu'il est dans la légalité parce qu'il a déclaré au fisc les dividendes encaissés par le biais de cette compagnie offshore. Il n'a pas cherché, dit-il, à dissimuler cet argent.
Alors pourquoi toutes ces critiques au final?
Alors, certains l'accusent d'hypocrisie parce que le recours à ces sociétés offshore cache bien sûr une volonté d'échapper souvent à l'impôt ou à certaines taxes. Et évidemment, tout est question d'interprétation parce que si la fraude fiscale est illégale, l'évitement fiscal que l'on traduit souvent par optimisation fiscale ne l'est pas, et c'est ce dont s'occupait la société du père de David Cameron. Son fonds Blairmore a été créé à une époque où des gestionnaires de fonds britanniques avaient décidé de s'installer à l'étranger pour profiter justement d'une fiscalité plus favorable. Il employait une cinquantaine de personnes aux Bahamas qui signaient des papiers, qui jouaient le rôle de trésorier, de secrétaire, et cela lui a permis de se soustraire du coup à certaines taxes comme l'impôt sur les sociétés, puisqu'officiellement la firme n'opérait pas au Royaume-Uni, même si toutes les décisions se prenaient finalement au Royaume-Uni. C'est peut-être légal, mais en tout cas, c'est autant d'argent qui ne rentre pas dans les caisses de l'État. Et en cela, certains Britanniques jugent que le fait de posséder des parts d'une société offshore est moralement répréhensible pour l'actuel Premier ministre.
Merci beaucoup Anastasia Becchio d'être venue répondre à Tamba Sidi qui est à Conakry. 33 9 693 693 70. On accueille Dominique Dezonnet qui nous rejoint. Dominique Dezonnet qu'on entend évidemment tous les matins sur l'antenne des RFI, spécialiste des nouvelles technologies. On a reçu une question concernant le bras de fer que se livrent Apple et le fabricant de smartphones, ainsi que le FBI. On vous en a déjà parlé sur notre antenne. Bonjour Issa.
Oui, bonjour Juan. Bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous nous appelez de Maputo, au Mozambique.
Oui, bien sûr.
On vous écoute.
Oui, j'ai entendu sur votre antenne que les FBI a pu débloquer l'iPhone de l'un des tueurs de San Bernardino, alors que Apple avait refusé. Mmh. Comment le FBI a-t-il débloqué l'iPhone du suspect de San Bernardino sans l'aide d'Apple?
Alors,
et est-ce que cela est légal?
Est-ce que cela est légal? C'est vrai qu'on se souvient, Dominique Dezonnet, bonjour.
Bonjour, Juan.
On se souvient qu'au nom de la protection des libertés individuelles, Apple a refusé de collaborer avec le FBI alors que la justice lui demandait de fabriquer un logiciel spécial pour essayer d'accéder au contenu du fameux téléphone d'un des deux terroristes de San Bernardino. On rappelle que la tuerie avait fait 14 morts en décembre dernier. Finalement, le FBI a réussi à débloquer le fameux téléphone et à obtenir donc les informations qu'il recherchait?
Oui, c'est exactement ça. Bonjour Issa. En tout cas, la méthode utilisée par la police n'a pas encore été révélée à ce jour et le département de la justice américaine a indiqué qu'elle ne fonctionnait pour l'instant qu'avec l'iPhone modèle 5C du terroriste. Par ailleurs, le FBI seul n'a pas pu trouver la façon d'entrer dans le téléphone du tueur, s'interroger comme le fait Issa aujourd'hui, de nombreux internautes sur les réseaux sociaux en observant que les autorités californiennes évoquaient une méthode proposée par une tierce partie.
Alors justement, selon les médias américains et israéliens, cette tierce partie serait en fait une entreprise, c'est la société Celebrite ?
Absolument, en tout cas peut-être ou peut-être pas, parce qu'en fait on n'en sait pas trop. L'entreprise israélienne Celebrite, qui développe des outils d'analyse pour faire parler les mobiles, propose depuis longtemps ces technologies de décryptage au FBI et aux cyberpoliciers. Dans de nombreux pays, les enquêteurs NTEC de la Gendarmerie nationale française par exemple, les utilisent utilisent. Cette société offre également ses services aux entreprises et aux particuliers qui ont bloqué, après plusieurs tentatives, l'accès aux données de leurs appareils. Et c'est bien là le problème avec les iPhones. Au bout de 3 ou 10 essais d'intrusion, selon les modèles,
ils sont bloqués.
Ils se verrouillent et détruisent aussi par sécurité tout leur contenu. Alors, fort de son succès, le FBI n'a toujours pas décidé s'il dirait à Apple comment combler une faille de sécurité flagrante qui permet d'accéder aux informations des iPhone 5C.
En tout cas, apparemment, la réponse des autorités pencherait plutôt du côté du non, Dominique.
Effectivement, comme le confirment les déclarations du directeur du Bureau fédéral d'investigation, si nous disons à Apple quelle est la faille, ils vont la corriger par une simple mise à jour du programme de l'appareil et nous allons revenir au point de départ. En conséquence, le procès tant attendu pour obliger la firme à coopérer avec les autorités a été annulé à la demande du FBI. Les premiers à réagir ont été évidemment les porte-parole de la marque à la pomme. Cette affaire mérite pourtant une discussion nationale sur nos libertés civiles, notre sécurité et sur nos vies privées collectives, assène la firme dans son communiqué en ligne. Et c'est là, en tout cas, la grande question. Est-il normal ou légal de donner au gouvernement le double des clés de sécurité qui protègent les informations chiffrées des internautes et des utilisateurs de smartphones? Oui, selon le gouvernement américain. Non, selon les opérateurs et les constructeurs de mobiles. Et ce débat est loin d'être clos, parce que le ministère de la Justice américaine a indiqué ce vendredi qu'il maintenait sa procédure d'appel pour contraindre l'entreprise californienne à aider la police dans d'autres enquêtes.
Donc le bras de fer continue entre Apple et le FBI, si je comprends bien.
Oui, mais cette annonce embarrasse plutôt le FBI, qui expliquait dans une note interne ayant fuité dans la presse que l'agence était désormais capable de casser la sécurité de tous les iPhones. Une sacrée bonne nouvelle, en fait, hein, assurément, pour les têtes de linotte qui ont perdu le code d'accès de leur smartphone. Pas de panique. Un petit courriel à partir de maintenant au service client du FBI et hop, il sera déverrouillé.
Bon, bah vous me donnerez l'adresse du FBI. Merci beaucoup Dominique Devzenet d'être venu répondre à Issa qui nous écoute tous les matins à Maputo au Mozambique. Il est 10h22 à Paris. Ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous ce matin. On vous a demandé de venir. On a reçu des questions concernant l'élection présidentielle au Pérou. On en parle évidemment sur l'antenne d'RFI. Bonjour Fiston.
Bonjour Gomez, bonjour à tous les techniciens de RFI.
Merci pour eux, vous êtes au Togo et nous vous écoutons.
L'élection présidentielle a eu lieu au Pérou ce dimanche Diaville et Keiko Fujimori est en tête. Comment expliquer la popularité de Keiko Fujimori dont le père est en prison pour crime contre l'humanité? Son nom est cité dans l'affaire Panama Papers. Est-ce que ça peut avoir un impact sur sa popularité?
Alors, Stéphanie Schuller, Keiko Fujimori n'est autre que la fille de l'ancien président, l'ancien dictateur Alberto Fujimori, qui a été condamné, comme le rappelait Fiston, à 25 ans de prison pour violation des droits de l'homme. Alors effectivement, elle est arrivée en tête du premier tour. Pour l'instant, nous ne disposons que de résultats provisoires. Elle a tout de même obtenu plus de 39% des voix. Le second arrive un peu loin derrière, puisqu'il ne recueille que 21% des voix. Il s'appelle Pedro Pablo Kuczynski. D'où vient la popularité de Keiko Fujimori?
Alors, je crois, Juan, que avant de parler de Keiko Fujimori elle-même, il faut faire peut-être un petit topo sur la situation actuelle du Pérou. Alors, le Pérou reste une société profondément divisée. Vous savez, les disparités sociales et les clivages raciaux sont toujours omniprésents, tout comme la méfiance des populations andines, par exemple, vers celles qui vivent en bord de mer, notamment dans la capitale Lima. Alors, pour ne rien arranger, une profonde crise de représentation politique touche l'ensemble des partis traditionnels du pays. Les électeurs se sentent désabusés et ils reprochent aux élus leur clientélisme.
Et c'est donc dans ce contexte que s'inscrit donc l'ascension de Keiko Fujimori dans le paysage politique péruvien.
Bah absolument. Keiko, comme l'appellent ses sympathisants, donc Keiko, même en fait on voit sur leur t-shirt un K juste pour Keiko. Alors Keiko doit se livrer à un véritable numéro d'équilibriste, si vous voulez. Pour beaucoup de Péruviens, vous savez, la présidence de son père est encore synonyme de stabilité économique et de la lutte contre le groupe armé Sentier Lumineux. Cette partie de l'héritage, la candidate doit donc la préserver, mais évidemment, elle ne peut pas gagner l'élection présidentielle avec comme seul électorat les anciens fidèles de son père, car pour une très grande partie de la population péruvienne, le règne de fer d'Alberto Fujimori est en effet, comme vous le disiez tout à l'heure, synonyme de violation des droits de l'homme, de crimes contre l'humanité même et de corruption.
Donc elle a pris ses distance un peu de son père, par rapport à son père, à sa famille.
Bah, tout à fait. Elle a même déclaré publiquement qu'elle s'engagerait à respecter les institutions, les droits de l'homme et aussi la liberté de la presse si jamais elle était élue présidente. Mais ce qui a fait de cette femme de 40 ans qui dirige, vous savez, le parti Fuerza Popular, la gagnante du premier tour, c'est aussi son engagement durant la campagne. Comme son père, auparavant d'ailleurs, elle a sillonné le pays, elle est allée au contact de la population et elle s'est adressée notamment aux jeunes. Elle veut représenter non seulement le renouveau du fujimorisme, mais aussi du paysage politique au Pérou. Et dans la morosité ambiante, si vous voulez, Juan, c'est un message qui, en tout cas, semble avoir porté ses fruits.
Même si ses adversaires, faut le rappeler, affirment qu'une victoire de Keiko Fujimori au mois de juin représenterait un retour en arrière, d'autant qu'elle est entourée de plusieurs personnalités qui étaient proches de son père. Fiston nous disait, mais le nom de Keiko Fujimori est cité dans l'affaire Panama Papers. Est-ce que ça risque d'être un coup dur tout de même pour sa popularité? C'est pas vraiment son nom qui est cité.
Hein. Justement, il faut préciser que justement, ce n'est pas Keiko Fujimori elle-même qui est accusée d'avoir eu recours à une société offshore. Ce sont en fait deux très influentes personnalités péruviennes. Il s'agit de Jorge Javier Yoshiyama Sasaki et de Silvio Kelly qui sont impliqués dans ce scandale. Seulement voilà, ces deux personnalités ont participé au financement de la campagne de Keiko Fujimori, de cette campagne et aussi d'ailleurs de la campagne présidentielle à laquelle elle a participé en 2011. De là à dire que cette affaire va nuire à la popularité de la candidate, je dirais personnellement que rien n'est moins sûr puisque désormais elle est au second tour de la présidentielle justement.
Oui, un second tour face à Pedro Pablo Kuczynski, ancien premier ministre et économiste de la Banque mondiale.
Mais qui est lui aussi, et c'est là où c'est intéressant, c'est lui aussi qui est cité dans le scandale des Panama Papers.
Ah oui,
tout
d'accord.
À fait, voilà. En 2006, alors qu'elle était premier ministre, PKK, comme on l'appelle aussi pour Pedro Pablo Kuczynski, avait écrit une lettre au cabinet panaméen et une lettre pour recommander l'un de ses amis, un banquier, pour la création d'une société offshore. Donc en fait, les deux finalistes au second tour de la présidentielle au Pérou sont cités dans cette affaire des Panama Papers.
Alors en deux mots, dites-nous ce qui fera la différence entre Keiko Fujimori et Pedro Pablo Kuczynski.
Alors la question est de savoir si la fille d'Alberto Fujimori a encore des réserves de voix ou si son excellent résultat, il faut le dire, au premier tour, représente déjà le meilleur score dont elle est capable. Il ne faut pas sous-estimer, comme vous venez de le dire tout à l'heure, les forces anti-fujimoristes toujours très importantes au Pérou. Et même si PKK avait appelé en 2011 à voter pour Keiko Fujimori, il est fort à parier qu'il bénéficiera cette fois-ci d'un report de voix de tous ceux qui veulent à tout prix éviter qu'une Fujimori reprenne les rênes du pays.
Fin du feuilleton, le 5 juin prochain, date du second tour de l'élection présidentielle au Pérou. Merci beaucoup Stéphanie Schuller. On salue Fiston qui nous appelait du Togo. On avait prévu d'autres questions ce matin, notamment une question concernant la déchéance de la nationalité pour les sympathisants du PKK. Et oui, le président Erdogan s'est peut-être inspiré du débat qui s'est tenu en France ces dernières semaines. Il souhaite lui aussi retirer la nationalité aux terroristes, mais pas seulement aux sympathisants de la cause kurde. On aura l'occasion de rappeler notre auditeur de Kinshasa demain et de recontacter évidemment Alexandre Billette, notre correspondant à Istanbul. Il est 10h28 à Paris. N'oubliez pas, dans un petit quart d'heure maintenant, notre débat du jour consacré au processus de réconciliation en Côte d'Ivoire, 5 ans après l'arrestation de l'ancien président Laurent Gbagbo. Où en est la réconciliation aujourd'hui? Beaucoup disent que le processus est en cours, mais qu'il est loin, encore loin d'être achevé. Vos réactions, évidemment, nous intéressent. Vous êtes nombreux sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission, à souhaiter commenter, évidemment, ces 5 années. Sounan nous dit « L'arrestation de Laurent Gbagbo a épargné la Côte d'Ivoire du chaos. Aujourd'hui, ce n'est pas l'Eldorado, mais le pays est stable. En revanche, Malolo estime que tant que les partisans de Gbagbo seront les seuls inquiétés et traduits en justice, eh bien, on vivra toujours dans une sorte de paix précaire. Le débat ne fait donc que commencer. Vous nous appelez, on vous attend au standard 33 9 693 693 70 et les réseaux sociaux, la page Facebook, la page officielle RFI Appel sur l'actualité. À tout de suite.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.
Priorité santé.